Il y a un temps pour tout, un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour construire et un temps pour détruire, un temps pour la paix, un temps pour la guerre. Ce texte de l'Ecclésiaste est extrêmement connu et il semble être une sorte d'affirmation finalement assez évidente, voire un petit peu, je dirais, relativisante, comme l'est souvent l'Ecclésiaste. Et pourtant, je crois que ce texte est plus qu'une petite leçon, je dirais, de morale, ou plutôt plus qu'un constat. Ce texte a une importance extrême et une valeur théologique profonde. Vous avez entendu qu'on retrouve la même idée, mais plus explicitée, en Ésaïe 28, quand le prophète dit que, en fait, il est bon de labourer, mais pas toujours. Il faut labourer, mais des fois, il faut aussi planter, parce qu'il ne faut pas toujours faire la même chose, et que donc, tout dépend un petit peu de la situation. Ce qui est intéressant, c'est que Ésaïe semble nous donner des recettes d'agriculture. Il explique qu'il faut planter les pôtres sur le bord du champ et pas au milieu, des choses comme ça. Donc Ésaïe nous donne des leçons d'agriculture, et voici qu'à la fin de ce passage, il dit que c'est un commandement de Dieu. Or, comme je ne crois pas que Dieu s'intéresse de près à l'agriculture, c'est que nécessairement ce que Ésaïe vient de dire sur la manière de labourer son champ n'est pas simplement un conseil agricole, mais c'est une parabole pour nous faire comprendre quelque chose de fondamental. Et cette chose fondamentale, peut-être est-ce que s'il y a un temps pour chaque chose, eh bien c'est qu'il n'y a pas de morale absolue possible. C'est qu'aucune chose n'est bonne en soi, aucune chose n'est mauvaise en soi, tout dépend du contexte. Et que le problème n'est pas de dire ça c'est bien, ça c'est mal, il faut toujours faire ça ou jamais faire ça. Ce qu'il faut, c'est faire les choses en leur temps, au bon moment, le faire dans le bon temps et pas à contre-temps. Et là, il y a une morale, je dirais, assez révolutionnaire. Parce que nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons tendance toujours à vouloir chercher des critères pour savoir si une chose est bonne ou si une chose est mauvaise. Et nous avons tendance à vouloir dire ce qui est bien et dire ce qui est mal. Et nous voudrions être capables de dire ça c'est toujours bien et ça c'est toujours mal. Peut-être que vous ne le faites pas, mais les églises ont vraiment tendance à le faire. Eh bien, je crois que ce serait une grave erreur. Parce que si vraiment, effectivement, il y a un temps pour chaque chose, c'est que alors, s'il y a un temps pour qu'une chose soit bonne, il y a aussi un temps pour que cette chose ne soit pas bonne. Et donc, on ne peut jamais dire qu'il faille toujours faire une chose ou ne jamais en faire une autre. Tout dépend du moment, tout dépend de la circonstance, tout dépend de la situation. Cela entraîne plusieurs choses. D'abord que la religion, qui est l'essence fondamentale de notre vie, ne peut pas être un moralisme. La religion ne peut pas se remplacer par une liste de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est bon et de ce qui serait coupable. La religion ne peut pas être une morale ou un code de bonne conduite, une liste de choses à faire ou une liste de choses qui seraient absolument interdites, parce que, comme je vous l'ai dit, ce qui est bon à un moment peut ne plus l'être à un autre. L'Évangile ne peut pas se réduire à une morale, et ce qui compte, c'est de faire ce qu'il faut sans pouvoir d'aucune manière s'appuyer sur une recette. Et donc il faut réfléchir, il faut chercher, il faut inventer, il faut être attentif pour essayer de trouver, en fonction de la situation, ce qui sera bon. Et dans une situation, peut-être une chose sera bonne, qui sera mauvaise dans une autre. Et il faut être attentif aussi à la personne qui est en face de nous. Peut-être qu'une attitude qui sera bonne avec une personne sera mauvaise avec une autre. Et donc il n'y a pas de règle. Et personne même ne peut vous dire ce que vous devez faire, parce que tout cela est une question de sensibilité. Il faut arriver à saisir ce que l'on pense de la situation et ce qu'il va être opportun de faire à tel ou tel moment. Tous ceux qui ont eu des enfants, par exemple, savent, ou des élèves, que parfois il faut encourager, parfois il faut réprimander, parfois il faut resserrer les boulons, comme on dit, et des fois il faut laisser de la liberté. Et par conséquent, quelle est la règle ? Est-ce qu'il faut être sévère avec les enfants ? Oui et non. Parfois oui, parfois non. Et donc il n'y a pas de règle, aucune règle. C'est simplement la responsabilité de chacun, parce que chacun doit sans arrêt faire les choix qu'il doit faire. Ces choix, personne ne peut les prendre à notre place. Et ces choix, nous devons avoir conscience que ce sont des choix complexes. Et donc la vie elle-même est complexe, parce que la vie est faite d'un mélange de beaucoup de choses. Et il n'y a pas à remplacer une vie complexe par des sortes de grilles de lecture de la vie qui nous diraient ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a pas de grille de lecture à appliquer. Il n'y a pas même de morale à appliquer. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui-même est présenté dans l'Écriture à la fois comme quelqu'un, je dirais finalement, d'assez profondément moral, et en même temps de souvent très immoral. Ben oui, il a transgressé les règles du sabbat et tout ça. Alors vous me direz, mais le sabbat, on a l'habitude maintenant. Mais à l'époque, les règles religieuses, c'était à la fois des règles sacrées et en même temps des règles sociales extrêmement fortes, des règles de bonne conduite. C'était en même temps le code de bon comportement, je dirais, de la bonne bourgeoisie de l'époque. Et donc Jésus, quand il transgresse ses commandements, se montre un être profondément, je dirais, immoral aux yeux de ceux qui étaient autour de lui à ce moment-là. Et donc je pense que, effectivement, le texte que nous avons lu là est fondamentalement opposé à toute solution unique et définitive. Il n'y a pas de réponse et nous devons éviter d'en donner. C'est vrai pour les grandes questions morales, je dirais de la contraception, de l'avortement, de l'euthanasie, de la guerre ou de la paix. Là encore, nous avons tendance à vouloir donner des réponses simples et les églises ont tendance à vouloir donner des réponses simples. Jamais d'euthanasie, jamais d'avortement, jamais de guerre. C'est plus compliqué que ça, moi je crois. Très honnêtement, je crois que c'est plus compliqué que ça. Aucune chose n'est en soi bonne ou mauvaise. Et le texte est même donc, je vous disais, opposé à toute solution unique et définitive. Et le texte d'Ésaïe est formidable. Il dit, vous savez, labourer un champ, c'est très bien, mais si vous ne faites que labourer tout le temps, rien ne poussera. Et je dirais la même chose pour notre vie, même pour des petites questions. Prier, c'est très bien, mais si vous priez tout le temps, vous ne ferez rien. Agir, c'est très bien, mais si vous agissez tout le temps, vous ne ferez rien. Donc oui, il y a un temps pour prier et il y a un temps pour agir. Le problème, c'est de trouver ce qui est bon au moment voulu. Et ça n'est pas simple. Alors, y a-t-il un critère pour trouver ce qui est opportun au moment voulu ? Pour le Christ, il y a un seul commandement. Ce seul commandement, vous le connaissez, c'est le commandement d'amour. Et donc, par amour, eh bien, il faut respecter cette règle. Mais vous savez aussi que le commandement d'amour n'est pas un commandement moral, parce que l'amour ne nous dit pas exactement ce qu'il faut faire. Et là encore, par amour, eh bien, parfois je serai amené à dire la vérité, et parfois pas tout à fait la vérité. Voilà. Par amour, je serai parfois amené à faire preuve de douceur, et parfois à faire preuve de violence ou d'une certaine violence. Par amour, parfois, je serai invité à me rapprocher de quelqu'un et parfois à m'éloigner de lui ou à l'éloigner de moi. Et donc l'amour ne dit pas, une fois de plus, concrètement ce qu'il faut faire. L'amour, c'est un méta-commandement ou une méta-morale. L'amour, c'est un idéal qui nous dit que la seule chose essentielle, c'est de choisir, non pas en fonction de soi, mais en fonction de l'autre. C'est-à-dire d'être à l'écoute de l'autre, en se disant, l'important, ce n'est pas à la limite ce que ça m'apporte, mais c'est de me dire je suis un être en relation avec d'autres, et l'important c'est la qualité de cette relation, c'est-à-dire comment est-ce que l'autre intervient dans ma propre décision. Et ça c'est fondamental. Ésaïe, au chapitre 28, lui dira qu'il y a deux buts fondamentaux pour orienter ses choix. De savoir comment est-ce qu'on laboure, comment est-ce qu'on bat le blé ou le cumin ou je ne sais plus quoi. Et ces deux buts qu'il donne, c'est d'abord la fertilité. Il dit, le but c'est qu'il y ait quelque chose qui pousse. Je dirais, labourer en soi, ça n'a aucun sens. Le seul but c'est qu'il y ait quelque chose qui puisse germer, qui puisse pousser. Ça me plaît. Oui, l'important c'est que dans notre action, est-ce que ce que nous faisons est fécond ? C'est-à-dire, est-ce que ça donne naissance à quelque chose qui grandit, qui pousse ? Est-ce que ça donne naissance à quelque chose qui mène à autre chose de bon, de positif ? Ça, c'est ce que reprendra Paul dans son épître aux Corinthiens. Quand on lui dit « qu'est-ce qui est bon ?» Il dit « oh, vous savez, c'est compliqué. Tout est permis. » Oui, tout dépend des situations. « Tout est permis, mais dit-il, tout n'est pas utile. » Tout est permis, mais tout n'édifie pas, c'est-à-dire tout n'est pas constructif. Donc l'important, c'est de savoir effectivement si ce que l'on fait, ça construit ou si ça détruit. Et deuxième critère que donne Ésaïe, c'est une histoire de pain. Voilà, il dit, il faut qu'on arrive à faire du pain avec tout ça. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose de faire pousser du blé si vous n'en faites pas du pain. Et le pain, eh bien, c'est la vie. Oui, je crois que c'est ça. Le pain, c'est la vie. Et donc, il faut que ce que nous faisons aille dans le sens de la vie. Mais vous savez, la vie physique n'est pas tout. De toute façon, notre vie physique est appelée à finir. Donc, tout investir sur la vie physique serait un investissement par avance perdu. Et simplement, la vie n'est pas que le corps et le vêtement. Et donc, notre vie, dans sa dimension la plus essentielle, est peut-être dans sa dimension invisible, spirituel, dans la dimension de l'amour, de l'être profond, de ce que nous sommes. Et c'est là aussi, savoir est-ce que nous faisons, construit quelque chose de positif, de bon pour cette existence, est-ce que ça donne quelque chose qui va dans le sens d'une vie éternelle. L'autre leçon que nous donne ce texte, c'est que, certes, bon, tout dépend des situations, mais il n'y a pas que ça. C'est que même, il est nécessaire aussi de changer ce que l'on fait, c'est-à-dire de ne pas faire toujours la même chose. C'est-à-dire que la fécondité vient de la diversité. Parfois il faut labourer et parfois il faut planter. Et pour que ça pousse, il faut labourer et puis il faut planter. Et ensuite, il faut ramasser. Et par conséquent, la fécondité dans notre vie vient aussi de la succession complémentaire et dialectique de ce que nous faisons. Je parlais tout à l'heure de l'action d'éducation, où effectivement il y a un peu de cela dans l'éducation, une sorte de massage à la douche écossaise, un peu de chaud, un peu de froid, un peu d'encouragement, un peu de réprimande, on canalise, on accélère, on ralentit, on freine et on donne du mouvement, de l'impulsion. Et ce qui est fécond dans notre vie, c'est justement cette façon d'être capable de jouer sur plusieurs facteurs, plusieurs paramètres et plusieurs tableaux. Les mystiques chrétiens ont senti ça depuis longtemps. C'est ce qu'ils appelaient, même si ça simplifie un peu, la respiration spirituelle. Il faut prier pour se remplir de la présence de Dieu et il faut aussi arrêter de prier pour agir. Celui qui agit tout le temps se vide comme une vieille baudruche crevée, et celui qui ne fait que prier se gonfle jusqu'à exploser. Et donc il faut, je dirais, se remplir de Dieu et aller vers les autres, se couper des autres et aller vers eux. Et c'est sans arrêt ce mouvement de va et de vient qui sera effectivement fécond. Cela entraîne quelque chose d'important. D'abord, la stérilité du moralisme. Le moralisme qui, justement, disant « ça c'est toujours bon, ça c'est toujours mauvais », est fondamentalement stérile. Cela ne peut pas mener à la vie. La vie, c'est de sortir de la bonne morale. Pas n'importe comment, évidemment, parce que si, je dis, il faut varier, mais si vous plantez avant de labourer, vous n'aurez rien. Et donc, il y a bien sûr une intelligence, une compréhension des choses. Tout n'est pas égal. Mais la vie suppose, à un moment donné, une souplesse par rapport aux règles qui permet d'inventer. Toutes les grandes inventions, toutes les grandes découvertes, toutes les grandes avancées de l'humanité se sont faites en transgressant les règles de l'évidence, et voire même les règles de la bonne morale. Et donc, stérilité du moralisme, stérilité aussi, je dirais, de l'intégrisme, de ceux qui prétendent avoir des règles immuables pour pratiquer un culte, pour vivre, pour croire. Cela ne peut mener à rien. Les principes sont une chose épouvantable, morbide et mortifère. Les gens qui ont des principes ne sont des gens qui ne font que semer la mort. Le principe, c'est mauvais et stérile. Moi, en tant que chrétien, je n'ai qu'un principe. Ça se dit en latin. In principio erat verbum. Le principe, c'est le verbe. Au commencement était la parole, dit l'évangile de Jean. Le seul principe, c'est le verbe éternel de Dieu. Le seul principe, c'est Dieu et le Christ. Le seul principe, c'est l'amour. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que l'amour n'était pas un principe moral. L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est un idéal. Et donc, la force de l'homme, c'est de s'adapter, vous disais-je, et de penser que tout principe moral, tout absolu moral, n'est qu'une idolâtrie. Si Dieu est éternel, et comme le dit l'Ecclésiaste, tout est fumée, tout est vapeur, tout est buée, tout est vanité. Tout ce que je fais, c'est de l'ordre du passager. Et tout ce qui m'arrive aussi, même la paix, même la guerre, même la maladie, même la santé, même la vie et même la mort physique, tout cela, c'est vanité et poursuite du vent. Voilà. Ce sont des choses secondaires et passagères. Nous ne devons pas nous en préoccuper plus que de cela. L'idolâtrie, c'est de croire que les actes, ce que nous faisons, ce que nous subissons ou ce que nous imposons aux autres, soit essentiel, fondamental, éternel, ultime. Non, tout cela, c'est de la buée. L'essentiel, il est ailleurs. L'essentiel, il est dans l'amour. Parce qu'en effet, aucun acte n'est bon en soi ou mauvais en soi. Ce qui compte, je vous ai dit, c'est le contexte et surtout, ce qui compte, c'est le résultat. Et je crois que là, l'homme doit avoir une certaine intelligence. De se dire, l'important ce n'est pas l'acte lui-même qui finalement, comme je vous le dis, est je crois assez secondaire, l'important c'est l'ensemble de nos actes, c'est la cohérence de notre vie. L'important c'est que l'ensemble conduise à quelque chose de positif. Labourer en soi c'est ni bon ni mauvais, planter c'est ni bon ni mauvais. Il faut faire les choses dans le bon ordre et pour qu'il y ait fécondité, il faut avoir avec opportunité fait les choses dans le bon ordre, au bon moment et de la bonne manière et que tout cela s'enchaîne. Et je pense qu'effectivement l'important c'est non pas tellement les petits actes ponctuels de notre vie, bons ou mauvais, mais l'important c'est l'ensemble, c'est la logique je dirais de notre existence. Si notre vie est faite d'actions désordonnées, sans but, eh bien, je crois que ce sera stérile, même s'il y a des bonnes choses dedans. Donc l'essentiel, ce n'est pas tellement qu'il y ait un critère moral pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal. L'important, c'est que dans notre vie, il y ait un principe unificateur. Et ce qui est grave, c'est quand il n'y a pas ce principe central dans la vie. Parce que alors la vie devient un divers pur, ça devient un fatras, un éparpillement, un chaos stérile. Comme un jardin, la beauté d'un jardin ne réside pas tellement dans le fait qu'il y ait ici ou là des fleurs extraordinaires, la beauté d'un jardin c'est son agencement, l'harmonie de ce qui s'y trouve. Et je pense que notre vie est faite de la même façon, une vie qui ne serait faite que d'actions désordonnées sans but, serait stérile, même s'il y a des belles actions dedans. Donc l'important, c'est de trouver une harmonie qui puisse conduire à une fécondité, de trouver un sens. Et là, je retrouve moi-même, dans cette démarche, cette chose chère aux réformateurs qui est le salut par la foi et non le salut par les œuvres. Parce que la foi, c'est le principe unificateur. La foi dans notre vie, c'est la visée, la conviction qui donne du sens à une vie. La foi, c'est ce qui donne une direction globale et forte dans laquelle peuvent s'inscrire toutes nos actions et toutes nos décisions. Et je pense que l'Évangile, le message du Christ, est un bon principe unificateur qui nous est proposé. Et donc c'est une, voyez-vous, une critique très puissante à l'égard de ceux qui affirment que nos actes auraient une valeur éternelle ou un point infini. C'est une critique très puissante de la théologie des œuvres, dans laquelle il y aurait une sorte de comptabilité de ce que nous aurions fait de bien ou ce que nous aurions fait de mal. Je crois que les actes sont passagers. Je pense que l'erreur et le pardon sont possibles, la conversion aussi. Je crois qu'il n'y a pas de poids infini de notre passé. L'important par rapport au passé, c'est comment nous allons l'intégrer dans un processus qui, lui, peut-être pourra intégrer ce passé qui peut-être était inopportun, parce que des fois on se trompe, mais on peut toujours récupérer, je dirais, recuisiner les restes d'une façon astucieuse et créative. Et donc je pense qu'effectivement, l'important, c'est une fois de plus l'ensemble et ce que nous arrivons à faire de l'ensemble. Donc si on se trompe, ce n'est pas très grave, puisque c'est l'ensemble qui compte. Et on peut toujours intégrer, même ses erreurs de parcours, dans un ensemble qui peut être harmonieux. Celui qui est spécialiste de ça, c'est Dieu. Toute l'histoire sainte est une histoire en permanence de Dieu qui arrive à réintégrer les errances et les erreurs humaines dans un projet plus vaste pour faire en sorte que ce qui était au départ une erreur devienne signe de vie. Je n'en citerai qu'un exemple, c'est la mort du Christ, bien sûr, son rejet, sa condamnation, sa mise à mort, la croix, qui est l'erreur la plus grande peut-être de l'humanité et que Dieu a réussi à réutiliser, réintégrer dans un ensemble plus vaste, pour qu'il devienne signe de vie. Donc, de toute façon, vous disais-je, tout ce qui arrive ici-bas n'est que vanité et poursuite du vent. Aucun acte, aucun événement n'a de poids éternel. De toute façon, les actes sont liés à l'espace, les actes sont dans le temps, liés à la temporalité. Et ce que cherche la religion, c'est l'intemporel, c'est l'éternel. Non pas le visible, mais l'invisible. Et quand la religion se mêle de matériel, elle fait fausse route. Que ce soit dans la politique, dans l'économie, dans la morale, ou dans la morale sexuelle, ou d'autres choses, quand la religion se mêle de ça, elle fait fausse route et elle tombe dans l'idolâtrie. Ce qui est vrai, c'est que l'homme religieux est écartelé entre le temporel et l'éternel. Et donc la tentation de la religion, c'est de coller les deux et de mélanger tout et de dire les commandements moraux sont des commandements de Dieu, immuables. Ça, c'est une tentation, mais c'est une tentation coupable et fausse parce qu'il ne faut pas confondre le ciel et la terre. Le ciel, c'est l'absolu, c'est l'éternel, c'est l'amour, et la terre, c'est la morale, c'est le divers, ce sont les circonstances complexes où il n'y a pas de réponse éternelle. Et je crois que c'est pour cela que le Christ n'a jamais donné de commandements moraux, mais il n'a donné que des idéaux. Aimer, pardonner, servir, donner. Des idéaux souvent inapplicables, voire utopiques, comme au jeune homme riche, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous persécutent, donne à celui qui te demande. Et puis, tiens, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Beau commandement moral. Et donc, le Christ ne nous a donné que des idéaux, parce que justement, l'idéal, c'est ce qui est de l'ordre de la foi et c'est ce qui oriente l'existence. C'est ce qui lui donne un sens, une direction. Pour ce qui est de l'application pratique, ne comptez pas sur Jésus pour vous dire comment faire. Ça, c'est à vous de vous débrouiller. Et donc, le règlement général d'application de l'Évangile n'est pas livré avec. C'est à chacun de se l'inventer. C'est vous qui êtes responsable, et donc, réfléchissez. Mais en même temps, j'ai conscience que je donne là un rôle très, très important, très grand, une responsabilité lourde aux croyants, qui doit donc sans arrêt essayer de garder les yeux tournés vers un idéal fort d'amour, de pardon, de justice, de miséricorde, et de vie, et en même temps toujours se dire je dois trouver, réfléchir ce qui est opportun. Bon, j'ai déjà dit une petite bonne nouvelle en disant bon, si on se trompe, on peut récupérer après. Mais la bonne nouvelle, elle va plus loin. C'est que je dirais, ne vous sentez pas écrasé par cette responsabilité qui est immense. Parce que si ce qui compte, c'est le sens global de la vie et pas les petits actes que nous faisons, n'ayez pas peur parce que le sens, ce n'est même pas tellement à vous de le donner, le sens à votre vie, il est déjà donné. Parce que ce n'est pas tant à nous de donner un sens à notre vie que de savoir que Dieu lui-même a déjà donné un sens à notre vie. Et que le sens, ce n'est pas à nous de le créer, de l'inventer, mais il existe, il est là, il est donné. Et même la vie la plus humble, la plus imparfaite, la plus pécheresse, dirais-je, a déjà un sens parce que Dieu lui donne du sens. Donc notre vie a en soi un sens. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes aimés. Le seul sens d'une vie, c'est l'amour. Et ça, j'y pense sans cesse quand on regarde les petits bébés, les nourrissons. Quel est le sens de la vie d'un nourrisson qui n'a aucune autonomie, qui ne peut rien faire, qui se bave dessus, qui fait ses excréments sous lui? Quel est le sens de cette vie? Cette vie n'a qu'un sens, c'est qu'il est aimé. Et c'est l'amour des parents qui donne du sens à la vie du bébé. Et je dirais la même chose pour ceux qui sont au seuil de la mort, ou à ceux même qui sont Alzheimer ou ce que vous voulez. Le seul sens d'une vie, ce n'est pas la performance. Le seul sens d'une vie, c'est l'amour dont est l'objet cette existence. Alors nous, nous aimons comme nous pouvons, mais n'ayez pas peur, il y a un Dieu qui vous aime. Et chacun de vous, si faible, si minable, si quoi que ce soit qu'il soit, est aimé par Dieu. Et donc l'amour que Dieu donne à chacune de ses créatures donne déjà le sens à votre vie parce que vous êtes aimé. Autrement dit, il n'y a pas d'angoisse à se dire « saurais-je donner un sens à ma vie ?» Votre vie a un sens. Donc c'est bon, voilà, vous êtes aimé, votre vie a un sens. Donc la vie n'est pas un challenge à réussir. Votre vie a un sens. Maintenant, notre responsabilité, c'est simplement de dire oui à cet amour, de s'en nourrir et de dire ce sens qui m'a été donné, j'en fais aussi le sens de ma propre liberté, de mon propre choix, et aussi le sens qui sera le sens de mes choix moraux dans mon existence, de dire moi, mon idéal et mon sens, c'est l'amour. Et donc, l'amour est à la fois notre idéal et notre socle. L'amour est à la fois notre force et notre but. Tout est passager et tout est poursuite du vent. Seul l'amour est éternel. Amen.